Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Vous nous rejoignez pour votre journal des idées à 6h40. Jacques, lors de son grand show annuel la semaine dernière, Mark Zuckerberg a présenté le nouveau visage de Facebook, un réseau social plus rigoureux dans sa gestion des données personnelles et davantage tourné vers les échanges privés.
Oui, je cite, « Depuis 15 ans, nous nous sommes focalisés sur la construction d'une place du village numérique, public », a-t-il déclaré. « Nous avons aussi besoin de l'équivalent numérique de nos salons ». Mais, comme le souligne Martin Utterzinger dans lemonde.fr, Mark Zuckerberg ne comprend pas et n'a jamais compris le concept de vie privée, une notion visiblement dépassée pour lui, qui a mis des années à admettre qu'il était nécessaire d'offrir aux utilisateurs des moyens de choisir qui pouvait accéder à ce qu'ils postaient. Sans compter le modèle économique consistant à aspirer quantité de données personnelles pour les vendre aux publicitaires, voire à des officines comme Cambridge Analytica, le tournant annonce comme une victoire pour la vie privée vise aussi à faire oublier la fusion des messageries d'Instagram, de WhatsApp et de Messenger. Quoi qu'il en soit, les utilisateurs n'ont pas attendu le message de Mark Zuckerberg pour préférer le salon à la place publique, comme en témoigne le succès de WhatsApp, devenu l'application de base de communication directe ou en petit groupe pour plus de 1 milliard d'internautes. Brocardant le ton volontiers messianique adopté par le gourou de la Silicon Valley, Laurence de Charette note dans le Figaro qu'il renonce à sauver le monde. Oublier l'idée de faire de Facebook l'agora populaire dont auraient rêvé Platon et toute la Grèce antique. Abandonner aussi les jolies utopies telles que rapprocher le monde, rassembler l'humanité ou rendre l'homme plus libre. Le réseau social qui permet la diffusion d'un attentat en direct, véhicule les appels à la haine et les fake news à l'appel, renonce à se présenter comme un idéal démocratique. La directrice du Figaro.fr ne fait pas de quartier. Les héros du web ont inventé un langage entrepreneurial aux accents christiques dans lequel il n'est plus question de marché mais de mission. Les patrons 2.0 ne cherchent pas des clients, ils désirent le bonheur des gens, ils ne proposent pas des produits mais une vision du monde. Conclusion provisoire, l'ère numérique a parfaitement su capter la quête de sens qui traverse le 21e siècle, mais elle l'a détournée. Le dernier slogan de la marque adopte donc le même ton.
The future is private.
Voilà, Mark Zuckerberg. L'avenir est privé, donc, à propos de celui que nous réservent les ingénieurs et hommes d'affaires de la Silicon Valley. Le psychologue allemand Harald Welzer déplorait dans un article relayé par Courrier International que, je cite, « l'avenir, c'était mieux avant ». Des voitures sans conducteur, des maisons qui s'entretiennent toutes seules avec un placard à bouteilles muni de capteurs qui nous diront qu'un verre, ça suffit, et des applications autocontrôlées. Cet avenir qu'on nous promet plein de glorieuses promesses ne se résume pour l'heure qu'à un programme d'infantilisation. Des solutions apportées à des problèmes triviaux dont la résolution ne changera rien à notre existence. En revanche, les questions qui ont préoccupé l'humanité de tout temps, l'injustice, l'oppression, la violence, ne les intéressent pas. Améliorer la condition humaine, il fut un temps pourtant où c'était ça l'avenir. La dernière livraison de la revue Esprit ausculte l'idéologie de la Silicon Valley. Emmanuel Aloha et Jean-Baptiste Souffron évoquent l'utopie d'une société hors sol, au travail virtuel et au support dématérialisé, avec des citoyens affranchis de toute attache, pouvant se connecter partout. Mais loin de promouvoir automatiquement un monde plus égalitaire et plus juste, les algorithmes confirment souvent les opinions et les préjugés déjà en vigueur, biaisant ainsi le futur avec leurs prédictions orientées. Fred Turner, professeur en sciences de la communication à l'université Stanford, revient sur le contexte communautarien des années 60 où est née l'utopie d'un monde dépourvu de politique que les technologies de l'information et de la communication devaient rendre meilleur en reliant les individus entre eux. Pour lui, l'idéologie de la Silicon Valley est le fruit paradoxal de la rencontre entre la culture militaire et la contre-culture. Le complexe militaro-industriel est très présent sur la côte ouest des États-Unis et sa prospérité a largement bénéficié aux entreprises technologiques locales. Par ailleurs, La culture militaire y est très ouverte et la contre-culture, dans son versant californien, bien plus à l'aise avec l'idée de commerce qu'on ne le pense. Pour Fred Turner, le problème n'est pas l'aspect technologique de la techno-utopie, mais l'aspect utopique qui a une tendance naturelle à former un système totalisant. Et pour ce qui concerne la technologie, nous n'avons pas encore les mots pour exprimer l'infrastructure en termes politiques.